pas rentrer de versets dans les versets ou les textes dans la. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut le faire. Tu peux le faire, Mervyn, ou... Sinon, c'est l'évangile de Jean, chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Si tu arrives, tu mets, sinon chacun suivra dans sa Bible, si vous l'avez avec vous. À l'ancienne, évangile, oui, il y a un problème. Ah, voilà, évangile de Jean, chapitre 5, du verset 1 à 9. Voilà, et si vous pouvez enregistrer, c'est bien, c'est enregistré. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle qu'ait été sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme retrouva la santé, il prit son lit et se mit à marcher. Nous sommes dans l'évangile de Jean avec un texte qui m'a toujours posé beaucoup de questions. Une guérison miraculeuse, comme beaucoup de guérisons, bien sûr, mais une guérison aussi qui me paraît évoluer dans un contexte pas tout à fait juste. Quand j'étais jeune et que je lisais ce texte-là, je dis... C'est pas normal qu'il y ait des choses qui se passent comme cela et qui relèvent de la capacité de certains à aller plus vite que d'autres pour s'emparer de la guérison. Je me disais, ça ne correspond pas au Dieu de grâce que je connais. Nous sommes dans l'évangile de Jean, un évangile qui est particulier. On a trois évangiles qu'on appelle synoptiques, qui sont les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Synoptique, ça veut dire en grec qu'on peut lire en même temps, c'est-à-dire que si on met les trois évangiles, et il y a des ouvrages qui le présentent comme cela, Matthieu, Marc et Luc, on s'aperçoit que les trois évangiles suivent la même trame, le même déroulé au niveau des textes, des événements. Trois évangiles synoptiques. Et puis vous avez l'évangile de Jean, qui est le dernier évangile qui a été écrit, un des derniers écrits du Nouveau Testament et de la Bible avec l'Apocalypse, et un évangile qui, lui, se dégage totalement du déroulement des événements et qui est construit par Jean d'une manière bien particulière. Quand je dis par Jean, je pense qu'il est construit par Dieu pour nous parler d'une manière différente. Si vous lisez et étudiez l'évangile de Jean, vous vous rendrez compte qu'il y a 5 parties dans cet évangile et que les 5 parties de l'évangile de Jean sont des parties qui alternent à la fois, je dirais, des discours et des textes qui parlent de l'incrédulité, et puis des discours et des textes qui parlent de la foi. Et c'est une alternance. Le chapitre 1 à 4, Jésus se révèle comme le Messie avec les premiers symptômes d'incrédulité, mais aussi de foi. Ceux qui commencent à adhérer, à entendre le message de l'Évangile et qui commencent à avoir foi en lui. Et puis, vous avez les premiers symptômes. J'aime bien parler de symptômes d'incrédulité. La deuxième partie, c'est le chapitre 5 à 12. Alors là, c'est l'incrédulité qui se développe au niveau des religieux juifs, de tout le clergé juif. Une incrédulité qui se développe notamment rapidement et puissamment, que le ministère de Christ prend de l'ampleur. C'est-à-dire que plus Christ a un ministère puissant qui se révèle, et plus l'incrédulité monte d'un cran. Le chapitre 12 et au chapitre 17, on voit la foi qui se développe et qui atteint certainement son plus haut point de force chez les disciples pendant les derniers instants ou les dernières heures, derniers jours qu'il passe avec le Seigneur. Et puis du chapitre 18 au 24, là vous avez les autorités juives qui, elles, atteignent leur plus haut degré d'incrédulité, d'opposition, qui se renforcent et qui vont jusqu'au paroxysme avec la condamnation et la crucifixion de Christ. Et vous avez les chapitres 20 et 21 qui, eux, sont les chapitres qui vont mettre en avant la résurrection qui consomme la victoire de Christ, la victoire de la foi sur les derniers restes d'incrédulité, notamment au milieu des disciples. C'est-à-dire que le chapitre 20 et 21, ce sont vraiment les chapitres qui se terminent avec Pierre qui dit à Jésus, à ses questions, « Est-ce que tu m'aimes ? Tu sais toutes choses. » Et on est vraiment dans le chapitre 20 et 21 sur la dernière partie où la foi est, je dirais, victorieuse de l'opposition. Tout le livre et tous les exégètes et ceux qui ont travaillé sur l'évangile de Jean reconnaissent qu'il y a cette alternance entre les chapitres, entre ces cinq parties, entre la foi, l'incrédulité, et ce qui arrive au chapitre 20 et 21, c'est le summum de la foi par la puissance de la résurrection, et ce qui fera que dans les actes des apôtres, on verra l'Église qui, comme une traînée de poudre, va embraser le monde connu et faire en sorte que la bonne nouvelle soit annoncée au monde entier. L'incrédulité, même si elle demeure dans ce monde, en tout cas a été vaincue par la puissance de la foi. Alors, cinq parties, et nous sommes dans la deuxième partie, le commencement de la deuxième partie, du chapitre 5 au chapitre 12, où il y a cette incrédulité de tout ce monde religieux, des autorités juives, qui se développe, qui se pose et se renforce à fur et à mesure que Christ se révèle comme le Messie. Cette construction de l'évangile de Jean n'est pas un hasard. Je crois qu'elle procède de principes spirituels fondamentaux. Plus Christ se révèle, plus l'opposition se renforce. C'est vrai aussi bien du temps de la présence de Christ au milieu des hommes que ça l'est au milieu du monde, quel que soit le siècle où nous vivons. À chaque fois que Christ et que l'Esprit de Dieu agit, l'esprit du monde se renforce et s'oppose. Mais c'est vrai aussi dans nos vies. Plus le Seigneur veut prendre de place, plus l'adversaire cherche à créer des positions d'opposition, de blocage, afin que l'œuvre de Dieu ne s'accomplisse pas en nous. Cette construction d'évangile de Jean relève d'un principe spirituel. Plus la foi augmente, que ce soit dans le monde ou que ce soit dans ma vie, et plus l'adversaire va chercher à construire une force d'opposition. Là où il n'y a pas ce phénomène qui agit, c'est quand on est neutre et qu'on ne fait rien. Je dis souvent, le meilleur moyen pour qu'il n'y ait pas d'opposition de l'adversaire, que ce soit dans la société, le monde où nous vivons, ou que ce soit dans notre propre vie, c'est lorsque nous ne prenons pas position. La neutralité tout court, est certainement le meilleur moyen de ne pas générer d'opposition et de réaction de l'adversaire. Et dans cette deuxième partie, nous sommes vraiment dans cette première montée d'incrédulité, du chapitre 5 au chapitre 12, une partie qui montre vraiment l'opposition de l'adversaire. Plus Christ va se révéler, plus les disciples vont prendre position, et plus l'opposition du clergé, de la religion juive, etc., va se faire forte et présente. Alors, dans ce chapitre 5, ce qui est intéressant, c'est dans ce chapitre 5 à 12, cette partie-là, il y a trois cycles, ou trois points importants qui tournent autour, en fait, de trois guérisons. Celle que nous venons de lire, la guérison de cet infirme à Bethesda, à la piscine, au chapitre 5. Il y aura la guérison de l'aveugle né au chapitre 9 et la résurrection de Lazare au chapitre 11. C'est-à-dire que toute cette partie du chapitre 5 à 12, où il y a cette montée de l'incrédulité, fait, opposition, réaction à l'œuvre que Christ révèle par ces trois guérisons. Et en fait, si vous lisez ce chapitre 5 au chapitre 9, vous verrez qu'il y a la guérison et ensuite il y a des discours. Des discours autour de qu'est-ce que Jésus a fait, quel sens cela a fait, cela avait, et pourquoi ceux qui sont là s'y opposent. Et le texte que nous venons de lire au verset 9 se termine par « C'était un jour de sabbat ». C'est-à-dire que le discours qui va suivre, c'est « Oui, mais il a fait cette œuvre-là un jour où il n'aurait pas dû. Et puis cet homme qui a été guéri, il n'aurait presque pas dû accepter la guérison parce qu'il était en dehors des règles de la religion juive. » Et il va y avoir tout un long discours entre Jésus et toute la construction de cette deuxième partie entre le chapitre 5 et le chapitre 12 va être entre ces trois guérisons. Avec le summum, cette guérison ou cette résurrection de Lazare, où là encore, l'opposition va être présente et va s'opposer à l'œuvre de vie et de résurrection que Christ a accomplie. Chacun de ces trois miracles, au lieu de susciter la foi des témoins vis-à-vis de Jésus, devient pour eux l'occasion d'une recrudescence de haine. Ça veut dire que même s'il y avait des miracles, ceux qui sont dans cette opposition à Jésus, ça ne fait qu'alimenter leur opposition à Christ. C'est étonnant. Mais si l'on regarde aujourd'hui, il y a des miracles aujourd'hui que Dieu accomplit encore, dans nos vies, dans l'Église, au milieu de nos familles. Et pour autant, vous voyez les membres des familles qui se renforcent, qui se positionnent et qui font bloc par rapport à ce que Jésus accomplit dans nos vies. Ce sont des principes spirituels. C'est-à-dire que même une résurrection, ça va crescendo. Un infirme à Bethesda, un aveugle né qui retrouve la vue et un mort qui ressuscite, eh bien, à la fin du chapitre 12, on est encore dans un renforcement de l'opposition à Jésus, voire même à arriver à l'extrême, à essayer de le faire mourir. Cette évolution, elle est marquée par une parole de Jésus au chapitre 10, verset 32, qui, dans cette partie-là, face à cette montée de la haine et de l'opposition, voit les Juifs qui cherchent à le lapider. À le lapider. C'est-à-dire qu'il fait des miracles, il accomplit des choses merveilleuses, et au lieu que ça arrive à les convaincre de la présence du Christ et du Messie au milieu d'eux, ils disent « on prend des pierres, on va le lapider ». Et Jésus aura cette parole étonnante au chapitre 10, verset 32. « Je vous ai montré de la part de mon Père plusieurs œuvres bonnes. Pour laquelle me lapidez-vous » C'est dire si l'opposition est forte. Ce sont là les nœuds de ce récit. Chacun de ces faits miraculeux est immédiatement suivi d'une série d'entretiens, de discours, en rapport avec le signe qui vient d'être donné. Ah, après cela, il y eut une fête. Il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Une fête. Juste au chapitre précédent, il y avait une fête qui se déroulait en décembre. La question de la fête en question est intéressante, c'est de savoir de quelle fête s'agit-il. En fait, le fait qu'on dise une fête, c'est-à-dire d'une manière indéterminée, nous laisse à penser qu'il ne s'agit pas d'une des trois grandes fêtes, à savoir Pâques, à savoir la fête des moissons, Shavuot, ou la fête des huttes, qui se déroule à l'automne. Donc, ce n'est pas une de ces trois grandes fêtes, parce que là, on ne dit pas une fête, c'est une fête qui avait été, les trois fêtes ont été instaurées par Dieu dans le Deutéronome, entre autres, on le retrouve. Donc, il s'agit d'une autre fête. Il y a eu d'autres fêtes qui ont été instaurées par les Juifs. Et ici, il est dit, c'est une fête. Or, lorsqu'on suit le déroulé de l'Évangile, et notamment les fêtes qui arriveront juste derrière, on s'accorde au niveau de tous ceux qui ont étudié l'Évangile de Jean à ce que cette fête dont il s'agit, dont il est parlé ici, soit la fête de Pourim qui se célébrait en mars, c'est-à-dire cette semaine. Cette semaine, le peuple juif a fêté la fête de Pourim jeudi dernier. La fête de Pourim, C'est une fête qui a été instaurée, qui ne se trouve pas dans le Deutéronome, mais qui a été instaurée dans l'histoire d'Israël. Alors, la fête de Pourim, elle se déroule au mois d'Adar, c'est-à-dire ce qui correspond à notre mois de mars, et elle commémore un événement particulier qui se trouve dans la Bible, c'est la délivrance du peuple juif par la reine Esther. Si vous avez lu ce récit dans l'Ancien Testament, vous avez la reine Esther, qui est une jeune femme juive, et qui est devenue une des femmes du roi perse de l'époque. Et puis, il y a un intendant, premier ministre, qui est antisémite et qui décide d'exterminer les juifs. Et pour ce faire, il tendra un plan qui visera à faire en sorte que tout le monde s'incline devant lui, mette genoux à terre, alors qu'il porte des éléments d'un culte d'un autre dieu, et donc en sachant pertinemment que les juifs ne le feront pas. Et que ne se soumettant pas à cette règle-là qu'il a fait valider par le roi, eh bien il aura le droit de les tuer, de les exterminer. Mais il n'avait pas pris conscience que la reine Esther, cette femme était d'origine juive, donc elle s'est mise en situation d'interpeller le roi, et puis elle a invité le roi et son premier ministre, et là elle a dévoilé les plans de ce premier ministre en disant, voilà, moi je suis juive, ça veut dire que je suis aussi condamné. Et le roi finira par prendre fait et cause à la fois pour la reine Esther, mais aussi pour le peuple d'Israël, et fera en sorte que le premier ministre soit tué, et que les juifs puissent se défendre et ne pas être exterminés dans son empire. Et la fête de Pourim, en fait, rappelle cet événement-là, cette fête de la délivrance en 480 avant Jésus-Christ, dans cet empire perse. La fête de Pourim, c'est cette fête-là pendant laquelle Jésus monte à Jérusalem. La fête de Pourim, en hébreu, ça veut dire la fête des hasards. C'est-à-dire, on lui a donné ce mot-là en disant, vous savez, quelque part, il n'y a pas de hasard. Dieu agit au travers de toute chose et de tout événement. La fête de Pourim. Le livre d'Esther, si vous le lisez, a une particularité. Est-ce que vous la connaissez? Laquelle? Ah, voilà. Oh, très bien. C'est le seul livre de la Bible où on ne parle pas de Dieu. Étrange, hein? Un livre de la Bible où on ne parle pas de Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'est pas cité. On ne prend conscience de Dieu qu'au travers de ce qu'il accomplit en matière de délivrance. C'est le seul livre de la Bible qui fait cela. C'est-à-dire que l'auteur nous raconte un récit en nous disant, voilà, il s'est passé tels événements visant à porter atteinte au peuple de Dieu, aux Juifs, et voilà ce qui s'est passé. On ne parle pas de Dieu, mais on voit comment Dieu agit. Ce qu'il a fait est généré. Mais en aucun endroit, aucun verset dans le livre d'Esther, il n'est parlé de Dieu directement. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de hasard. C'est ça, la fête de Pourim. Il n'y a pas de hasard. Même cette persécution, même, je dirais, la manière dont le Premier ministre a été installé et a mené son combat contre le peuple d'Israël, il n'y a pas de hasard parce que Dieu tient toutes choses entre ses mains. Amen. Il n'y a pas de hasard dans nos vies non plus. Il n'y a pas de hasard si, pendant cette fête des hasards, Jésus arrive à cette fontaine de Bethesda, à cette source de Bethesda. Combien dans notre vie nous avons pu considérer, en nous regardant après avoir rencontré Dieu, qu'alors que nous ne le connaissions pas, il était déjà présent dans notre vie. Il avait conduit toutes choses. Comment il tenait notre existence. Je me rappelle avoir joué à des jeux très dangereux avec mon frère dans les cités HLM de Coquerioville au Havre. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait des cordes avec des poulies qui allaient du toit d'une tour de 12 étages. Et puis, ils avaient mis une poulie, puis une corde. Et puis, c'était pour monter des sauts, des choses comme ça. Et nous, on n'avait rien trouvé de mieux que de se dire, et si on s'attachait un bout de la corde et qu'on tirait sur l'autre pour monter le long? Et on l'a fait. Et on a monté comme ça sur 3-4 étages. On n'a pas été au 12e, hein. mais sur 3-4 étages. Après coup, je me suis dit, on en a fait tellement des choses comme cela, comment se fait-il qu'il ne nous soit pas arrivé d'accident, que notre vie n'ait pas été fortement marquée par ces conduites à risque? Parce que je crois pertinemment que quand on a fait cela, 3, 4, 5 ans après, aussi bien moi et mon frère, nous nous sommes convertis. Dieu nous a gardés pendant ces temps-là. Il n'y a pas de hasard jusqu'à ce que nous le rencontrions et que nous donnions notre vie. 3 ans après avoir escaladé, 3, 4 ans après avoir escaladé cette tour avec des copains, avec cette corde, mon frère est parti de nuit en mobylette avec moi, en pleine campagne du côté d'Étretat. Et puis, il y a eu un accident. On s'est rentré dedans avec les mobylettes. Il y en a un qui a eu peur d'une lumière de voiture. Tout le monde s'est relevé, sauf mon frère. Quand je me suis approché de lui, il était dans le coma. Triple fracture du rocher, inconscient, intransportable. Pronostic vital engagé. Il n'y a pas de hasard. Moi, j'étais converti, lui non. L'Église a prié pendant des semaines, puisqu'il était quasiment en fin de vie. Et Dieu l'a sorti du coma. Et quand il est sorti du coma, mon frère, qui était une vraie crapule, cité des banlieues, autour de son lit, avec des chrétiens, qui lui ont témoigné de l'amour de Christ, il s'est converti. Il n'y a pas de hasard. Notre vie est entre les mains de Dieu. Alléluia. Ici, on est à cette fête de Pourim qui a eu lieu cette semaine, la fête des hasards. Moi, j'aime bien dire que c'est la fête des hasards dans la conception de Einstein qui disait, vous savez le hasard, vous savez ce que c'est? C'est Dieu qui avance incognito. Ah oui, j'aime ça. C'est Dieu qui avance incognito. Il n'y a pas de hasard. Alors, cette fête de Pourim, c'est une fête qui parle de délivrance et de libération. Le peuple juif a été libéré de toute l'adversité, de l'opposition. Et le sens de la guérison, le fait de que cette guérison-là se passe un jour de sabbat, ce n'est pas un hasard. Ça nous parle d'une manière dont Dieu conduit les choses. La fête de Pourim était célébrée chez les juifs. Cette semaine, par exemple, chez les juifs, la Pourim, c'est synonyme de bienfaisance. On se fait des cadeaux. On dit que c'est le jour des largesses. Et c'est le jour où on ne refuse rien à un enfant. C'est Noël. C'est le Noël des juifs. Jour, cette semaine, tous les enfants juifs, tout ce qu'ils pouvaient demander, normalement, fête de Pourim, on l'a. Hein? La question de Jésus à cet homme qui était malade pendant 38 ans, c'est « Veux-tu guérir ?» Est-ce que tu veux que je te fasse une largesse? Est-ce que tu veux que je touche ta vie? Alors, dans ce récit, on voit que Jésus s'approche de ce lieu. Il y avait une piscine qui s'appelait Bethesda. Et puis, il y avait 5 portiques, et sous ces portiques, une multitude de malades, d'aveugles. Moi, je me suis toujours, depuis ma première lecture de ce texte, posait la question, mais il y avait une foule, et il y en a un que Jésus a rencontré. Est-ce que c'est juste? Pour moi, ça me dit que Jésus ne s'occupe pas des foules. Il s'occupe de l'individu au milieu de la foule. Je suis toujours un petit peu dérangé par une approche qui se voudrait toujours collective. Allez, levez-vous tous et on va prier pour vous tous. Jésus ne fonctionnait pas comme ça. Il nourrissait les foules, mais il guérissait les individus, les personnes. Il y avait là un homme au milieu de cette foule de malades et il s'est approché de lui. Pourquoi? Eh bien parce que, comme le dit le passage des Proverbes 4, verset 3, « J'étais en effet un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. » Et je crois que c'est cela, la relation que Dieu a avec chacun d'entre nous. Non pas comme un élément constitutif d'une foule, mais comme un individu, une personne qu'il veut
rencontré un fils, une fille. J'étais en effet un fils pour mon père, un fils tendre et unique. Est-ce que vous pensez que vous êtes fils ou fille unique sous le regard de Dieu? Ça fait tellement de bien. Moi, je suis l'aîné de 8 enfants. Dans mon enfance, ça a été difficile de me considérer comme un fils unique. Quand vous êtes l'aîné de 8, je peux vous assurer que bien, les autres passent et les petits derniers passent avant vous. J'ai eu de la chance, ma mère était la 21e de 21, donc je l'ai échappé. On va décrescendo chez nous. Aujourd'hui, on s'est arrêté à 3, notre génération. Mais est-ce que je peux, sous le regard de Dieu, devant lui, cultiver ce sentiment? Parce que c'est son désir et sa volonté d'être un enfant unique, d'être l'objet de son attention et de son amour. C'est cela que le Père veut nous faire toucher du doigt. Et dans ce récit, au milieu de cette foule, Jésus va vers un homme. Il est peut-être accompli d'autres raisons, mais il est allé voir cet homme-là, comme il est venu me voir moi. Il m'a rencontré. Au milieu de la foule, je suis l'objet de son affection, de son attention. Méfions-nous de ne nous contenter que d'être un élément de l'Église que Dieu bénit. Non, non, Dieu veut me bénir personnellement. Il est souvent difficile de se croire l'objet d'un tel amour, simplement parce que je crois que je ne mérite pas d'être forcément aimé, pour X raisons. Parce que c'est comme ça qu'on m'a parlé, dit les choses, parce que l'expérience de ma vie m'a montré que je n'étais pas seul à être aimé ou digne d'être aimé. Parce que je n'ai finalement pas assez de valeur. Pas assez de valeur pour être aimé pour ce que je suis. Ou parce que Dieu n'a pas assez de temps pour s'occuper de l'individu. Il a déjà assez de travail comme ça, s'il devait en plus s'occuper de moi. C'est Satan, soyons clairs, c'est Satan qui utilise ses idées fausses, ses fausses croyances pour nous séparer, nous empêcher de goûter à l'amour réel de Dieu. C'est Satan. Refusons ces pensées, refusons ces fausses croyances et rentrons dans la révélation réelle de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Il m'aime, il m'a tant aimé, dit un cantique, mais il m'aime maintenant. Le psaume 16, verset 3 dit « Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection, dit Dieu. » Les hommes qui sont à moi sont l'objet de toute mon affection. Près de la porte des brebis, il y avait une piscine, Bethesda, qui s'appelle Bethesda, ce qui veut dire maison de la miséricorde. C'est-à-dire là où on fait miséricorde, là où on donne de l'amour, là où on accomplit quelque chose de profond et de vrai pour la vie de l'autre. Maison de la miséricorde. La porte des brebis, c'est une porte qui se situait à l'Orient, à l'Est, de la ville de Jérusalem, et il y avait une porte qui passait des pâturages qui étaient à proximité, où tous les troupeaux paissaient, étaient élevés, et qui permettait d'amener dans la ville de Jérusalem, et par cette porte à proximité du temple, les animaux qui devaient être sacrifiés. C'est un endroit stratégique et utilitaire. Près de la porte des brebis, il y avait une piscine particulière. Il nous est dit que cette piscine avait cette particularité, c'est qu'un ange descendait de temps en temps, agitait l'eau, et celui qui descendait le premier était guéri, quelle que fût sa maladie. C'est là que moi, ce texte-là me pose toujours problème. On sait que bien des manuscrits anciens de l'évangile de Jean ne comprennent pas la fin du verset 3 et le verset 4, c'est-à-dire cette histoire d'ange, etc. Peu importe, j'ai envie de dire.
il y avait une piscine où il y avait des malades, et ces malades-là, lorsqu'ils voyaient l'eau agitée, il dit pas dit qu'on voyait l'ange. Un ange descendait, mais remuait l'eau, et ceux qui sautaient dans l'eau étaient guéris, et le premier qui arrivait. Quelle course ! Quelle course ! Le premier ! Vous savez ce qu'il faisait ? Il restait là toute la journée et il regardait l'eau. Il regardait l'eau. Et ça y est ! Ah, j'ai raté le départ. C'est lui qui a été guéri. Il faut que j'attende à nouveau. Il y en avait un qui était malade depuis 38 ans et qui n'avait pas la possibilité. C'est là que ce récit me dérange face à une révélation d'un Dieu de grâce. Un Dieu qui donne des chances égales à tous ses enfants pour être guéris, délivrés et vivre en plénitude. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Moi je pense qu'il y a dans ce récit quelque chose qui est de l'ordre de sur quoi je fais reposer mon salut et où est fixé mon regard. Là, en l'occurrence, tous ceux qui étaient là, aussi nombreux soient-ils, ne regardaient pas Dieu. Ils regardaient l'eau. Ils ne regardaient pas la miséricorde et l'amour de Dieu. Ils observaient le mouvement de l'eau. Hein, c'est plus un processus religieux qui est installé qu'une révélation de l'amour de Dieu. Moi, ça me fait penser à tous ceux qui, de manière très religieuse, observent ce qui bouge. Oh, ça bouge là-bas. On va y aller et on va vivre quelque chose. Oh, ça bouge là-bas. On va y aller. J'avais un ami pasteur très proche et puis qui a été responsable du groupe de jeunes de Francine. Et ce responsable, un jour, est venu nous rendre visite à Kevin. Il est pasteur d'une grande église du côté de Genève. Et il avait trois numéros du journal de son église. Sur le premier, on le voyait à Séoul. C'est là où il y a eu un réveil et une église de plusieurs dizaines ou centaines de milliers de membres, voire de millions de membres en Corée. À Séoul. Il avait un deuxième numéro où il était en photo sur la première page avec, je dirais, les responsables de l'église de Toronto. Parce que ça bougeait là-bas, il y a eu un réveil. Puis il a été en photo, en première page du journal de l'église, avec les responsables du mouvement de Pensacola aux États-Unis, parce que ça bougeait. Aller là où ça bouge. Sauter dans l'eau en se disant, là je vais vivre des choses. Ça peut fonctionner. Il y en avait un qui était guéri. Dans nos vies, est-ce que nous avons nos regards sur cette eau qui bouge et sur laquelle nous mettons toute notre espérance, des choses, des événements, des systèmes, quelque chose qui pourrait nous être profitable, nous apporterait la guérison, le changement de notre vie, ou bien est-ce que notre regard est reposé sur autre chose ou quelqu'un d'autre? Cet homme qui était malade pendant 38 ans, qu'est-ce qui a commencé à faire changer les choses pour lui ? C'est pas seulement quand Jésus lui a parlé, ou alors c'est quand Jésus s'est mis devant lui et lui a commencé à lui parler. Parce que cet homme-là, il a dû faire quelque chose. Quelque chose qui peut-être l'a dérangé. C'est qu'il a dû déporter son regard de l'eau de la piscine vers Jésus, puisqu'il lui parlait. Ben ouais. Alors je ne sais pas, peut-être que la première réaction de cet homme, ça a été de dire, pousse-toi, parce que là tu me caches la vue, je veux voir l'eau qui bouge là. Vas-y, cause toujours, mais m'empêche pas de voir l'eau. Ce qui a commencé à apporter du changement chez cet homme, c'est quand son regard s'est détourné de ce qui était quelque chose de quasiment religieux et magique, pour se poser sur Jésus-Christ. Dans nos vies, les choses changent et bougent. Quand notre regard n'est pas reposé ou posé sur des systèmes, des choses à faire ou qu'on devrait faire, mais quand notre regard se pose sur Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. C'est là que la parole de Jésus commence à nous rencontrer. Et là, Jésus, ayant capté l'attention de cet homme, lui pose une question. « Veux-tu être guéri ?» Le mot grec de cette question, « Veux-tu être guéri ?» c'est « hygié », qui a donné « hygiène ». Est-ce que tu veux de l'hygiène dans ta vie ? Est-ce que tu veux être sain, c'est-à-dire en bonne santé ? Quelle drôle de question. Jésus s'approche d'un homme et il l'a vu couché. C'est-à-dire qu'il l'a vu et il savait déjà, le texte dit, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Ouais. Quand Jésus me regarde, il sait. Il sait, quand je ne le connais pas encore, depuis combien d'années je suis malade. Malade du péché, malade de mes choix de vie, malade de ce qui abîme mon existence. Il le sait, il s'approche de moi et il me dit de la même manière, est-ce que tu veux redevenir saint ? Est-ce que tu veux retrouver de la qualité de vie ? Est-ce que tu veux aller mieux ? Le Seigneur sait. Et ce matin, nous ne sommes pas nombreux. Mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas une seule personne ce matin dont Jésus ne connaisse pas l'état de santé physique et spirituelle. Et la question de Jésus retentit aussi. Est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux retrouver ta santé dans tous les domaines, là où tu as mal, là où tu es blessé, là où tu es meurtri. Jésus te dit ce matin, je peux te rendre sain, dans le sens retrouver ta santé physique et spirituelle. Ce matin, je sais depuis combien de temps tu es malade. Je sais depuis combien de temps tu ne vas pas bien. Je sais ce que je peux faire pour toi. Est-ce que tu veux ? Et en fait, la question, c'est pas « est-ce que je peux ?» dit Jésus. C'est « est-ce que tu veux ?» Et la question, à cette question qui nous semble une évidence, bien sûr, que quelqu'un de malade depuis 38 ans va dire « mais oui Seigneur, j'ai bien envie d'aller mieux. » Eh bien, je peux vous assurer qu'il existe dans cette Église, dans ce monde, des hommes et des femmes qui connaissent Jésus et qui entendent cette parole. Je sais depuis combien de temps tu es malade, tu es en souffrance, depuis 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et à cette question qui disent, je vais réfléchir, je vais y penser, parce que laisser Christ agir, ça peut être aussi synonyme d'abandon de certaines choses, de mise en confiance par rapport à Jésus, mais d'abandon de certaines pratiques, de certaines pensées, de certaines positions qu'on a prises, qui nous mettent en mauvaise santé, mais que pour autant on n'a pas envie d'abandonner. Et c'est cela qui rend légitime la question de Jésus à cet homme. Veux-tu ? Veux-tu être guéri ? Alors le malade lui répond quelque chose qui est à la fois très logique et aussi déclencheur de sa guérison. Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. C'est-à-dire qu'il fait référence, non pas à ce Jésus qui est devant lui, alors on apprendra dans le récit ensuite qu'il ne savait pas qui c'était. Mais il fait référence à cette fichue piscine qui est là devant lui. Il dit, mais voilà, moi je suis devant cette piscine et il n'y a personne. C'est-à-dire, j'ai besoin d'aide, il faudrait que quelqu'un m'aide. C'est la première position, j'ai envie, saine dans la tête, quand on commence à se dire, je ne peux pas tout seul. Quand on commence à se dire, je suis incapable d'y arriver. Dans le soin des malades dépendants de l'alcool et des autres produits, ou du tabac, c'est souvent le premier pas de guérison. C'est quand la personne dit, j'y arrive pas. C'est ce que dit ce malade-là à Jésus. Mais il fait référence à cette piscine. Ah, j'y arrive pas, c'est difficile, tu sais. Et puis, cette piscine, elle est quand même miraculeuse. Bon, ça fait 38 ans que je suis malade. Il dit, ça fait longtemps qu'il venait. Il a essayé longtemps. Il est toujours passé après les autres. Eusèbe, qui est un père de l'Église du 1er siècle, si je ne m'abuse, a été à Jérusalem et a recherché aussi les lieux où Christ avait été passé. Et c'est Eusèbe qui parle de plusieurs piscines qui se trouvent du côté de la porte des brebis, qui aujourd'hui est plutôt appelée la porte de Saint-Étienne. Et c'est plusieurs endroits où il y a des sources. Et Eusèbe explique qu'il y a des sortes de fossés qui ont des, à des moments précis de la journée ou de la semaine, voire de saison, c'est des fossés qui sont remplis d'herbes avec des pierres, etc. Ça peut être des thermes, etc. Et à un moment de la journée, on ne sait pas trop pourquoi, il y a un phénomène où tout à coup, il y a des sources qui montent très rapidement. Il explique cela au 1er siècle et il dit effectivement, cette question d'une piscine avec de l'eau qui est en mouvement et qui monte, eh bien, ça existe à Jérusalem et notamment du côté de la porte de Saint-Étienne, qui est l'ancienne porte des brebis. Et il dit, il y en a une d'ailleurs, et je trouve ça très intéressant, il y en a une, quand l'eau monte, l'eau est rouge. Alors, il y a eu beaucoup de questionnements sur le fait que Eusèbe parle d'une eau qui montait dans une sorte de fossé du côté de la citadelle Antonia, et il y avait effectivement des sources qui montaient, et ces eaux étaient chargées d'une couleur rouge, alors soit liées à des minéraux, mais à l'époque d'Eusèbe, ce qu'on pensait, que c'est en fait, c'était des sources qui récupéraient le sang des animaux tués au temple, à côté, puisqu'on était juste à côté du temple, il y avait des milliers d'animaux qui étaient tués constamment, et que cette eau était chargée des minéraux liés au sang qui s'écoulait, c'est un abattoir, hein, le temple, ce n'était pas autre chose. Et beaucoup pensaient à l'époque d'Eusèbe que l'eau rouge de cette piscine, c'était les minéraux liés au sang qui étaient charriés par la source et qui, à un moment donné, ça montait, ce qui donnait aussi, ce qui attribuait à cette eau des vertus, entre guillemets, miraculeuses, puisque c'était le sang des animaux tués pour le sacrifice. Est-ce que c'est cela, dans cette piscine-là, que cet homme se plonge ? On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a ces phénomènes de sources qui montent et qui descendent à Jérusalem, qui sont bien connus. Alors, le malade dit, je n'ai personne pour me jeter quand ça monte et quand ça bouge. Quand un ange remue l'eau, je n'ai personne. Et en fait, ce que Jésus veut lui faire changer, c'est la direction de son regard. Ne regarde plus à cette eau, à cette pratique-là qui est installée depuis tant de temps, etc. Détourne ton regard et regarde-moi. Est-ce que tu veux guérir ? Parce que dans le psaume 34, verset 5, il est dit ceci, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. » Pensez-vous que cet infirme, une fois qu'il a tourné ses regards vers Jésus et qu'il a été guéri, dit « Ah zut ! Ah, c'est bête, je suis guéri. » Non, il a sauté. D'ailleurs, il est dit qu'après, on l'a retrouvé au temple, devant les sacrificateurs, en train de témoigner, de dire, c'est fantastique, c'est merveilleux, j'ai rencontré... Je ne sais pas qui c'est. Comment ça, tu ne sais pas qui c'est, disent les prêtres, parce que là, on est dans la résurgence de l'incrédulité et de l'opposition des prêtres. Qui est-ce qui t'a guéri ? En plus, un jour de sabbat, c'est-à-dire que non seulement tu es à côté d'une piscine, tu fais quelque chose qui normalement n'est pas autorisé jour de sabbat, et en plus, il y a quelqu'un qui te guérit. Mais moi, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que j'ai regardé à cet homme-là, et il m'a guéri. Alors là, ils l'ont insulté, ils ont dit, va chercher, va nous dire qui c'est, viens nous le dénoncer, etc. Mais il était heureux. Il a tourné ses regards, détourné ses regards de ce qui n'était pas juste, de ce qui était religieux, de ce qui était de l'habitude. Et il a fixé ses regards sur Jésus. Et il a saisi. Et alors là, les autres, ceux qui étaient les plus rapides, etc., je ne sais pas comment ils ont réagi, mais je suppose qu'après, tous les autres ont dû quitter la piscine de Bethesda et puis se dire, on va le suivre, c'est mieux, vous savez, il n'y a pas de concours là, tout le monde peut être guéri. Eh ouais, aujourd'hui, tous autant que nous sommes, nous pouvons vivre guérison de Dieu dans les domaines de notre vie qui ont besoin d'être touchés. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et en fait, le mot qui est utilisé pour lit, c'est un des mots grecs qui a donné graba.
prends ton grabatoï. C'est-à-dire, c'est pas prends ton lit confortable avec édredon en plume de Suède et ton oreiller tempura. Vous savez, ces oreillers à prise de forme et tout. Prends tout cela. Non, prends ton grabat, ton lit de camp, cet endroit où tu te poses dans la souffrance et dans le mal-être. Prends cela, lève-toi et marche. Va. Aussitôt, l'homme fut guéri. Ça a dû être étonnant pour les autres. Écoute, ça fait 5 ans qu'on est là avec lui. Il a beau se lever en courant, jamais il arrive à l'eau le premier. Il n'a pas de peau. Ouais, mais maintenant, tu as vu ça? C'est lui qui est guéri alors que nous, on attend encore. C'est un sacré témoignage. Lorsque j'accepte la guérison de Dieu dans ma vie, lorsque j'accepte qu'il soit ce Dieu que je regarde et qui transforme ma vie, ça interpelle ceux qui sont autour et qui sont dans la même souffrance, le même mal-être, la même difficulté. Lève-toi. Le verbe qui est utilisé en grec ici, c'est egerai. Ce n'est pas simplement lève-toi de ta chaise, c'est le même mot qui est utilisé pour dire ressuscite. C'est le même mot. Ressuscite, lève-toi, sors de la mort. Lève-toi. Et s'il y avait bien un homme qui savait ce que c'était depuis 38 ans que d'être dans la mort, d'être coupé de la vie, c'était bien cet homme. Et si nous regardons notre existence, nous pouvons nous aussi regarder notre vie et dire, Seigneur, sois celui qui a la puissance et que je regarde pour me faire sortir de la mort dans les domaines où les choses le sont. Elles sont mortes. Et elles ont besoin de revenir à la vie. C'est le même mot qui veut dire se réveiller des morts, ressusciter. Réveille-moi, Seigneur. Réveille en moi la vie et les dimensions que tu as placées en moi. Réveille-les. Accomplis ton œuvre, Seigneur. Et cet homme se leva, prit son lit et marcha. Wow! Ça, c'est génial. C'était un jour de sabbat. Jésus n'aurait pas dû faire ça, mais bon. Il n'y a pas de temps interdit ou limité par Christ pour que nous soyons touchés. Quel que soit le temps, il veut accomplir son œuvre de libération et de guérison dans nos vies. Est-ce que je veux bien déplacer mon regard? Ne plus le fixer sur des choses qui me rassurent où j'attends des guérisons, mais reporter mon regard sur lui. Maintenant, maintenant. Prions ensemble. Seigneur, donne-nous d'avoir des yeux ouverts pour que les hasards de notre vie, cette fête des hasards, nous puissions derrière cela percevoir ta grâce et ton amour pour nous. Que nous puissions véritablement nous dire, voilà, maintenant est jour de salut, jour de bénédiction pour moi. Je veux quitter dans certains domaines le grabat sur lequel je me trouve et me lever et marcher. Je veux être touché et visité par toi, Seigneur. Laissez ton œuvre s'accomplir pour que ceux qui me regardent, qu'ils soient prêtres, sacrificateurs ou autres, puisse être étonné de ce que tu fais. Je veux mettre mon regard sur toi, m'attendre à toi, dépendre de toi. Seigneur Jésus, je te prie pour chacun d'entre nous ce matin. Tu connais, tu sais, comme pour cet homme couché là depuis des années, tu sais quels sont nos besoins. Là où ta main doit toucher notre vie. Et nous voulons te répondre, oui, je veux être guéri par toi. Oui, je veux être touché par toi. Et je sais que je peux me lever et me mettre en marche, ressuscité, réveillé par toi. Merci d'étendre ta bénédiction sur chacun d'entre nous, Seigneur.
maintenant. Amen. Amen.